Voici une question dont la réponse en fera réfléchir plusieurs. Qu'est-ce que les gens font quand ils attribuent l'origine de l'univers à des causes naturelles? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et sage aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On apprend réellement à connaître notre grand Dieu merveilleux à travers les psaumes. Et mon cœur déborde de joie en voyant combien ce Dieu parfait peut aimer sa créature. Mon Dieu m'aime, et il t'aime toi aussi, mon ami. Alors voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que la Bible démontre l'humanité et la divinité de Jésus? Que signifie le mot « Alléluia »? Qu'est-ce que les gens font quand ils attribuent l'origine de l'univers à des causes naturelles? Pourquoi est-ce que Dieu doit juger le péché? Quel effet est-ce que les commandements de Dieu doivent produire dans nos cœurs? Y a-t-il vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Est-ce que Dieu mettra fin à la méchanceté un jour? Devons-nous louer Dieu pour sa bonté? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner la parole de Dieu, cette parole qui a une réponse pour chacune de nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien recevoir ce précieux enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on vient te demander de disposer nos cœurs, de nous calmer, de nous amener toi-même dans ta présence pour qu'on puisse vraiment goûter à ce beau message d'amour que tu as pour nous aujourd'hui. Enseigne-nous ta parole. Fais-nous goûter à ta présence, goûter à toi un peu plus de toi, Seigneur. Et fais que tu puisses croître et qu'on puisse diminuer, Seigneur, qu'on puisse être humble et te voir combien tu es grand, combien tu es magnifique et merveilleux par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Le psaume 110, tout comme le psaume 109, est un psaume messianique. Il traite de l'exaltation du Seigneur Jésus en débutant par son ascension. Débutons notre lecture, le psaume 110, verset 1er. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ce psaume est remarquable parce qu'il démontre la divinité de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas examiner ce psaume et nier la divinité du Seigneur Jésus. Ce psaume est cité à 6 reprises dans le Nouveau Testament. Un jour, les ennemis de Jésus le prirent d'assaut. Les Hérodiens, un parti politique de l'époque, ont essayé de le piéger en lui faisant faire une déclaration qui leur aurait permis de l'accuser de traîtrise envers Rome. Après l'échec des Hérodiens, les Sadducéens, un parti religieux libéral, ont essayé de piéger Jésus avec une question ridicule au sujet de la loi mosaïque. Puis ce fut au tour des pharisiens de s'essayer et d'échouer. Alors qu'ils se consultaient pour une nouvelle attaque, Jésus prit l'initiative en leur posant une question. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Notez que Jésus a posé une question simple. Les pharisiens ont répondu qu'il était le fils de David. Alors Jésus les emmena au psaume 110 et il démontra que les pharisiens ne connaissaient pas bien le psaume, que les Juifs considéraient messianique. Dans ce psaume de David, nous voyons Dieu parler au Messie, et David appelle le Messie « mon Seigneur ». Cependant, le Messie est le descendant de David. Donc, dans ce psaume, David affirme que le Messie lui est supérieur. Par conséquent, le Messie sera plus qu'un simple roi qui siégera sur un trône. Comment donc le Messie peut-il être le descendant de David? Certainement pas par une naissance naturelle, mais par une naissance surnaturelle. Le psaume 110 nous démontre que le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, fut né d'une vierge. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ce sont les paroles d'un égal qui parle à un égal. Dieu parle à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Hébreux, chapitre 1, verset 13. Ceci démontre la divinité de Jésus-Christ, et cette révélation n'aurait pu être faite plus clairement. Ceux qui affirment que la Bible n'enseigne pas la divinité de Jésus-Christ n'ont pas bien examiné cette section de la parole de Dieu. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ce verset parle de la venue de Jésus-Christ pour régner. Au sujet de cette époque, Ésaïe a dit, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ésaïe chapitre 2, verset 3. Jérusalem sera la capitale du gouvernement mondial. Dieu a encore des plans pour son peuple. À suivre, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Le peuple se rallie avec joie à son sauveur. Lorsque le Seigneur rassemble son peuple, celui-ci le sert de plein gré et avec ardeur. Les ornements sacrés symbolisent des cœurs purifiés du péché par le sang de Jésus, des cœurs consacrés à Dieu et qui lui obéissent. Dieu donne un cœur nouveau à ceux qui viennent à lui. Et de cela découle une joie, la joie avec laquelle les croyants se rallient autour de leur merveilleux Sauveur. Verset 4. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le sacerdoce du Seigneur est supérieur à celui d'Aaron. Voilà une autre grande vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est un sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ce fait est établi clairement dans l'Épître aux Hébreux à cause de l'importance de sa signification. Lisons ce que dit l'Épître. Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 5, les versets 6 à 10. Le sacerdoce du Seigneur Jésus est supérieur à celui d'Aaron et des prêtres lévitiques de l'Ancien Testament. Ces versets démontrent l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus. Versets 5 et 6 du psaume 110. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Voyez-vous Dieu juge des nations? Il le fera à son retour. Le psaume 2 l'indique clairement. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Le psaume 2, verset 9. Revenons à notre texte, le psaume 110, verset 7. « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Voici notre traduction d'une citation du docteur Gabilein. Ce texte nous dépeint de nouveau l'humiliation et l'exaltation du Seigneur Jésus. L'humiliation consiste à boire au torrent pendant la marche. Cela nous rappelle les 300 guerriers de Gédéon. Ils se sont agenouillés pour laper l'eau comme un animal, et plus tard, Dieu les a utilisés pour obtenir une grande victoire. Mais le Seigneur Jésus est descendu plus bas que ses guerriers. Il a bu les eaux de la souffrance et de la mort. Donc, Dieu l'a exalté. Ceci est un psaume merveilleux. Citation du livre des psaumes, page 415 du docteur Gabilein. Le psaume 111 loue Dieu pour ses œuvres. Oui, nous passons au prochain psaume. Le texte hébreu est un acrostiche, ce qui ne paraît pas dans notre traduction française. Ce psaume est le premier d'une série de trois qui louent l'Éternel pour ses œuvres, les psaumes 111, 112 et 113. Le psaume 111 loue Dieu pour ses œuvres et pour son plan rédempteur. C'est le nouveau cantique qui sera chanté dans les cieux. L'ancienne chanson est celle de la création. La nouvelle est celle de la rédemption, ou si vous préférez, de la nouvelle création, celle créée en Jésus-Christ. Nous les retrouvons toutes deux dans ce psaume. Verset premier. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Louez l'Éternel est la traduction de Alléluia. Notez les œuvres pour lesquelles nous louons l'Éternel. Versets 2 à 4. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Attribuer l'origine de l'univers à des causes naturelles, c'est voler la gloire de Dieu. Oui, chers amis, je répète, attribuer l'origine de l'univers à des causes naturelles enlève leur gloire à Dieu et au Seigneur Jésus. C'est voler Dieu, c'est voler la gloire de Dieu. C'est aussi pire que de rejeter le Seigneur Jésus, notre Sauveur et le merveilleux plan rédempteur de Dieu. Si vous acceptez Jésus comme Sauveur, vous reconnaissez qu'il est le Créateur. Maintenant, le psalmiste loue le Seigneur pour sa rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Et ceci fait partie du cantique de louange. Verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le mot hébreu traduit redoutable est aussi traduit révérend. Le Dieu saint est le Dieu redoutable. Aucun pasteur ne devrait porter le titre de révérend. C'est un titre qui s'applique seulement à Dieu. Seul Dieu est redoutable. Dieu libère son peuple en le rachetant. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Louons Dieu pour ses œuvres, mes amis. Louons Dieu pour ses œuvres. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Il est grand, alors tout ce qu'il fait est grand. Dans la création, Dieu a révélé sa toute-puissance et sa sagesse éternelle. Le plan rédempteur de Dieu révèle sa justice, sa sainteté et même sa gloire. Un jour, le plan rédempteur de Dieu sera entièrement accompli et toutes choses seront soumises au Seigneur Jésus. Les rachetés et toute la création loueront le Seigneur par des cantiques. N'est-ce pas merveilleux? Le psaume 112 loue aussi Dieu pour ses œuvres et le texte hébraïque est un acrostiche. Malheureusement, cela ne ressort pas dans le texte français. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont utilisées dans ce psaume. Parce qu'il est juste, Dieu doit juger le péché. Il ne peut laisser impuni tout acte d'injustice de la part de l'homme. L'accent est mis sur la louange de la justice de Dieu. Parce qu'il est juste, Dieu doit juger le péché. N'êtes-vous pas heureux que Dieu soit celui qu'il est? Dieu est bon et juste, et c'est pour cette raison qu'il doit juger le péché. Un jour, il redressera toutes choses, et j'ai hâte à ce jour. Vous? J'aimerais être parfait. Ne le souhaitez-vous pas? Nous pouvons louer le Seigneur pour sa justice. Un jour, je pourrais dire, je suis un être juste parce que Dieu le déclare solennellement dans sa parole et il voudrait tous nous déclarer justes. Mais pour cela, il faut que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Le verset premier du psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les commandements de Dieu révèlent notre état spirituel. Ne détestez pas les commandements de Dieu. Ils sont un miroir qui révèle votre véritable état spirituel. Les commandements nous montrent notre état de pécheur et de séparation d'avec Dieu. Lorsque les gens se voient tels qu'ils sont, ils se tournent vers le Seigneur pour être sauvés. C'est l'effet que produisent les commandements de Dieu. Si vous êtes honnête, vous savez que vous ne pouvez pas être sauvé en gardant ou en observant les commandements. Ils vous prouvent que vous avez besoin d'un sauveur. Personne ne peut accomplir cette sainte loi que Dieu nous a laissée. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Dieu est immuable, donc ses attributs le sont aussi. C'est-à-dire que Dieu ne change pas, il est le même, éternellement. Dieu sera toujours juste. Il est immuable, donc forcément ses attributs le sont aussi. Notre Dieu est juste, nous pouvons compter sur ce fait. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux, compatissant et juste. Nous ne percevons pas vraiment toute la bonté de Dieu. Si c'était le cas, nous le louerions davantage. Oui, comparons cette bonté de Dieu avec, malheureusement, l'être humain que nous sommes. Il y a de quoi vraiment à louer notre Dieu. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Dieu ne perdra jamais de vue tous les siens, et ce, pendant toute l'éternité. Verset 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un homme qui craint Dieu agira comme son Créateur. Il fera des largesses aux pauvres, il se souciera des pauvres et des misérables. L'homme qui ne craint pas Dieu amasse des richesses. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui ne craint pas Dieu s'arrête sur l'aspect recevoir et non sur l'aspect donner. Il se contente de la bénédiction de recevoir sans se rendre compte qu'il se prive de la plus belle et la plus grande richesse qu'est celle de donner, de partager. Verset 10, le psaume 112. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Un jour, le Seigneur Jésus mettra fin à toute méchanceté. Il n'y en aura plus jamais. Gloire à Dieu! Le psaume 113, maintenant, célèbre la majesté de Dieu et ouvre une série de psaumes. Les psaumes 113 à 118, qui étaient chantés à l'occasion de la Pâque, de la fête de la Pentecôte, de la fête des Tabernacles et probablement à toutes les autres fêtes d'Israël. Ce psaume est un beau cantique de louange et d'adoration. Débutons sa lecture, le psaume 113, verset 1er. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, dites à quelqu'un que Dieu est bon. Nous ne devrions pas prendre le nom de Dieu en vain, mais nous devrions plutôt louer et adorer Dieu. Ce psaume sera chanté éternellement, car il loue le Seigneur et le Rédempteur de la création. Je vous le dis, Dieu est bon. versets 2 à 6, « Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » Dieu est si élevé qu'il doit se baisser pour regarder les cieux. Maintenant, notez ce que Dieu fera. Verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. L'Éternel est notre sauveur et notre rédempteur. Lui seul a le pouvoir de venir nous chercher là où nous nous trouvons. Implorez sa miséricorde. Demandez-lui son aide. Versets 8 et 9. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel! Luther a dit que l'œuvre particulière du Seigneur Jésus et la tâche du royaume de Christ, c'est d'abaisser les orgueilleux, de faire honte à ceux qui se pensent sages et de condamner les hypocrites et ceux qui prétendent chrétiens sans l'être. Par contre, il élève les humbles, illumine ceux qui reconnaissent avoir besoin de sagesse, purifie les pécheurs repentants, accorde des enfants aux stériles et console les orphelins. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si le fait que le Seigneur Jésus élève les indigents nous étonne, soyons encore plus étonnés par la conversion des pécheurs. Non seulement Dieu les adopte-t-il dans sa famille, mais il les purifie et leur donne un cœur nouveau. Voilà le miracle des miracles. Si être élevé par le Seigneur nous donne des responsabilités, être sauvé par lui nous en donne des plus grandes. Nous sommes appelés à célébrer sa gloire et proclamer sa parole afin que d'autres deviennent avec nous les récipiendaires de la grâce de Dieu. Alléluia! Louez l'Éternel! C'est le temps de louer le Seigneur, mes amis! C'est le temps de la grâce! J'aimerais réussir une chose au moyen de cette étude des psaumes. Amener le peuple de Dieu à le louer et l'adorer davantage. Oh, si son peuple le louait abondamment, mes amis, aujourd'hui, dites à quelqu'un que Dieu est bon, à une personne de votre entourage, que ce soit votre famille, votre lieu de travail, dans votre quartier, dites-le, Dieu est bon. Et appuyez ce fait par le récit d'une fois qu'il a manifesté sa bonté envers vous. Partagez, racontez votre histoire d'amour avec Dieu. Partagez vos bienfaits que vous recevez de la part de Dieu. Témoignez de l'amour de Dieu, témoignez de sa bonté. À chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté envers nous. Êtes-vous conscient de cela? Oh, que cette émission puisse éveiller en vous ce nouveau sens, peut-être, de jeter le regard vers Dieu et de pouvoir contempler sa beauté, sa bonté, devrais-je dire. C'est sa nature. Oui, Dieu est remarquable, Dieu est bon, et il a donné généreusement envers nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, source de toute bénédiction. Car s'il a donné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose dont nous avons besoin afin de vivre pleinement cette vie chrétienne, cette relation avec Dieu, dans cette intimité avec lui? Oui, Dieu a pourvu pour tout cela. Vous en êtes les récipiendaires, les bénéficiaires. C'est à vous de tendre la main vers tout ce que Dieu vous offre. Un cadeau éternel, quelque chose que nous ne méritions pas, mais une grâce nous a été faite par ce grand Dieu. Recevez-la! Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant les psaumes 114 à 116.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quel enseignement! Quelle beauté dans les psaumes! Êtes-vous d'accord, mes amis? Après seulement quelques minutes d'enseignement, on ne peut pas douter de la divinité de Jésus-Christ. On ne peut pas douter de la bonté, de la puissance, de l'amour, de la justice de Dieu. Et en même temps, on peut voir l'humilité du Seigneur Jésus. J'ai trouvé ça tellement beau, Régent, quand tu as dit que les guerriers de Gédéon s'étaient agenouillés pour laper l'eau avec leurs mains et que plus tard, Dieu les a utilisés pour obtenir une grande victoire, mais que le Seigneur Jésus, lui, est descendu plus bas que ses guerriers et qu'il a bu les eaux de la souffrance et de la mort et que c'est pour ça que Dieu l'a exalté et élevé. Mes amis, je suis toujours touchée profondément quand je vois l'humilité de Jésus, cette humilité qu'il a exercée afin de m'élever au rang d'enfant de Dieu. Paul nous raconte quelque chose de vraiment beau au sujet de l'humilité de Jésus dans le 2e chapitre de son épître aux Philippiens, des versets 5 à 11. Permettez-moi de vous le lire. Vous pourriez peut-être le lire avec moi si vous le voulez. C'est bien l'épître de Paul aux Philippiens, au 2e chapitre des versets 5 à 11. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Mon ami, l'humilité de Jésus l'a amené à mourir sur une croix pour moi, et pour toi aussi. Es-tu prêt à confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur? Pourquoi penses-tu qu'il est mort sur une croix? C'est parce qu'il était le seul qui pouvait être un sacrifice parfait que son Père agréerait pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de tes péchés. Paul nous dit dans son épître aux Romains que tous ont péché. Mon ami, je t'invite à te repentir, à te détourner de ta vie de péché, tout en reconnaissant que tu n'as pas la capacité de le faire sans placer ta confiance en Jésus seul pour être pardonné, sauvé, libéré. Jésus a payé la note en entier en mourant sur la croix. Son Père a accepté son sacrifice, mais maintenant, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Alors demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Imagine-toi passer l'éternité dans la présence de Dieu.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.